Frères et sœurs, dans notre vie, il y a des moments fondateurs dont on aime se souvenir. Là, pour une personne consacrée ou un prêtre, ça peut être le moment où il a perçu l'appel de Dieu pour lui. Là, pour des époux, ça peut être le moment où ils se sont rencontrés. Et il en est un peu de même pour l'Église. Le matin de Pâques est un moment fondateur, un moment inoubliable pour Marie-Madeleine, pour Pierre et Jean et les autres apôtres et disciples. Le matin de Pâques, le Christ est venu les rejoindre, justement à un moment où ils ne l'attendaient plus, tant ils avaient été ébranlés, même comme assommés par le dénouement tragique du Vendredi Saint. La résurrection, c'est d'abord un fait inattendu. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons la course au tombeau, d'abord de Marie-Madeleine, puis de Pierre et de Jean. Encore une fois, au point de départ, ils se sont trouvés devant un fait, le tombeau vide. Et ce tombeau vide a préparé déjà leur cœur, leur esprit à la rencontre du ressuscité. Le matin de Pâques, donc, il y a ce tombeau vide et bientôt il y aura les apparitions de Jésus. Comme le disait Benoît XVI, ces deux faits sont importants. La tombe est vide et Jésus est apparu réellement. Et ainsi se constitue cette chaîne de la tradition qui, à travers le témoignage des apôtres et des premiers disciples, parviendra jusqu'à nous. Alors, quelles sont les garanties qui font que nous pouvons être sûrs que ce fait s'est réellement produit et non que ça n'a pas été une invention, une suggestion? Saint Paul, quand il écrit aux Corinthiens, vers les années 56 ou 57, se réfère justement à un credo, en quelque sorte, qu'il a appris juste après sa conversion, donc peut-être 5-6 ans après la mort du Christ. Et alors, il nous rappelle justement toutes ces apparitions, toutes ces rencontres qui ont été faites avec le Christ ressuscité. Donc, c'est un témoignage vraiment avec une profonde valeur historique. Il y a aussi une observation plus générale qui nous aide à voir combien c'est pas de la fiction. Vous vous rappelez de l'évangile des disciples d'Emmaüs, il disait nous espérions que c'était lui, etc. Voilà, mais à ce moment-là de la résurrection, ils ont cessé d'espérer en lui. Et tout à coup, après la résurrection, on voit tous ces hommes qui proclame de manière unanime que Jésus est vivant. Et il n'hésite pas à affronter des procès, des persécutions, et même le martyre et la mort. Alors, il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas été certain que Jésus était vraiment ressuscité. Donc, il ne s'agit pas d'une exaltation mystique. C'était des pécheurs qui avaient les pieds sur la terre. Et alors, c'est important pour nous de ne pas nous laisser ébranler dans notre foi par des romans qui sont écrits bien après, qui n'ont pas de valeur historique, mais qui se présentent quelquefois comme tels, où voilà, on dit que finalement Jésus n'aurait peut-être pas été crucifié, qu'il ne serait pas mort, et puis en plus, il serait parti avec Marie-Madeleine après la résurrection. Mais alors, quelquefois, on se laisse entamer par des romans comme ça, et on ne prend pas la mesure de la vérité historique de la résurrection. Parce que, encore une fois, les apôtres se sont trouvés devant un fait. Ce n'est pas une construction de leur esprit, ce n'est pas une autosuggestion, parce qu'ils ne le désiraient pas à ce moment-là, ils n'en avaient aucune idée. Et le premier événement dans notre foi, c'est d'accueillir la réalité telle qu'elle est, d'avoir l'humilité d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent, et non pas tel qu'on les rêve. Donc, première chose, les apôtres se trouvent devant un fait, la tombe vide, et bientôt ils vont avoir des apparitions les uns après les autres dans des endroits différents du Christ ressuscité. Deuxième chose, ils vont essayer de comprendre. Un fait, mais après il faut essayer de comprendre. Et c'est que, alors dans la résurrection, ils avaient bien la preuve que Jésus était bien l'envoyé de Dieu. C'est dans les Actes des Apôtres, il nous est dit qu'en ressuscitant Jésus, le Père a donné une garantie sur lui. Oui, il est vraiment le Fils de Dieu. Mais jusque-là, ça n'expliquait pas pourquoi il avait fallu qu'il passe par la mort de la croix, par l'abandon de tous. Et alors, encouragé par Jésus, vous vous rappelez des disciples d'Emmaüs, Jésus va les inviter à relire l'Écriture. Comme il est dit dans l'Évangile de ce jour, jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Et désormais, notre foi en la résurrection s'appuie non seulement sur le témoignage des disciples, mais aussi sur le témoignage des Écritures. Voilà ce que disait Benoît XVI aussi l'an dernier, à pareille époque. Dans le mystère pascal s'accomplissent les paroles de l'Écriture. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un événement qui porte en soi un logos, une logique. La mort du Christ témoigne que la parole de Dieu s'est faite jusqu'au fond chair, histoire humaine. Frères et sœurs, au début de cette homélie, j'ai parlé du matin de Pâques comme d'un moment fondateur dans l'histoire de l'Église. Mais maintenant, il faut ajouter qu'il ne s'agit pas d'un moment fondateur comme on le comprend souvent pour notre vie. Alors, si on reprend l'exemple des époux qui se souviennent avec émotion du moment où ils se sont rencontrés, ils peuvent se remémorer ce moment avec émotion, avec peut-être un peu de nostalgie, de la fraîcheur et de l'insouciance de leur jeunesse, avant qu'ils n'aient quelques rides sur leur visage ou que leur silhouette perde un peu de son élégance, disons. Mais lorsque nous parlons du matin de Pâques, il ne s'agit pas de se limiter à l'évocation un peu nostalgique d'un moment qui a eu lieu dans le passé, avant que l'Église ne se développe avec ses structures, avec les ombres aussi qui ont jalonné son histoire. Parce que la liturgie de l'Église ne commémore pas des événements passés, comme on peut le faire, je ne sais pas, si on célèbre le 8 mai ou le 11 novembre. La liturgie actualise, rend présent pour nous les mystères de la vie du Seigneur. C'est-à-dire que la victoire du matin de Pâques n'est pas seulement pour le passé, quelque chose de passé, mais aussi pour le présent, pour aujourd'hui. La grâce de Pâques n'est pas seulement pour Marie-Madeleine, pour Pierre, pour Jean, mais pour moi, ce matin. Nous avons déjà dit que dans la résurrection, le Père donne une garantie sur Jésus. Il nous dit que Jésus n'a pas seulement donné sa vie par amour avec sincérité, mais qu'il est vraiment le Fils de Dieu, comme il l'avait déclaré pendant sa vie terrestre. Mais la résurrection ne prouve pas seulement la vérité du christianisme. Elle fonde aussi notre réalité chrétienne. Le Christ est ressuscité pour notre justification, c'est-à-dire pour la causer et pas seulement pour la démontrer. La résurrection n'est pas vraie seulement pour Jésus, mais pour moi. Là, nous en venons donc au fruit de la résurrection. Et si vous relisez les différents récits de la résurrection, si vous relisez les premières prédication des apôtres sur la résurrection, le premier fruit de la résurrection, c'est le pardon des péchés. C'est certainement pas un hasard que ce soit Marie-Madeleine qui soit la première à qui est faite l'annonce de la résurrection, à la pécheresse. parce qu'elle est l'image de l'humanité pécheresse tout entière qui découvre son Sauveur. Et quand Jésus apparaît à ses apôtres le soir de Pâques, il leur confie le pouvoir de pardonner. Hein. Il leur dit « Paix à vous » et tout homme, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis. Alors la résurrection nous ouvre la porte d'un monde où le mal et le péché n'ont pas le dernier mot. Et vivre de la résurrection du Seigneur, c'est s'ouvrir à cette grâce de pardon et de paix. Mais plus largement, au-delà de ce pardon des péchés, Jésus nous ouvre à une vie nouvelle, une vie dans l'Esprit Saint. Alors nous entrons dans cette vie par la foi. Et quand saint Paul, dans la deuxième lecture, parle des réalités d'en haut, il ne parle pas de choses un peu abstraites, un peu dans les nuages. Parce que si vous lisez les versets suivants dans l'Épître aux Colossiens, saint Paul parle de la bienveillance, de l'humilité, de la douceur, de la patience, du pardon mutuel. Voilà, alors ce sont les réalités d'en haut, ce sont comme des avant-goûts du ciel. À l'inverse, ce qu'il appelle les réalités de la terre, c'est la débauche, l'impureté, la passion, la cupidité, la convoitise. Alors donc, il ne s'agit pas de choses, qu'elles soient d'en haut ou d'en bas, mais de conduite, de manière de vivre. Et par la résurrection, il ne nous est pas donné de vivre une autre vie que la vie ordinaire, donc on arrête de travailler et puis on fait autre chose. Non, il s'agit de vivre autrement la vie ordinaire. C'est toujours la vie ordinaire, mais qu'on vit autrement, avec une nouvelle dimension. On le voit d'ailleurs dans la vie des apôtres. Avant, ils chamaillaient très volontiers pour des questions de préséance, etc. Après, ça passe au deuxième temps. Ce n'est pas gagné une fois pour toutes, il y aura toujours un combat, mais il y a un pas qui est fait. La résurrection nous ouvre la porte de l'éternité, pas seulement au terme de notre vie, mais au-delà du monde visible. Elle est à la fois dans l'histoire et au-delà de l'histoire. Comme le dit saint Paul, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Voilà encore une parole de Benoît XVI en guise de conclusion qu'il a prononcée l'an dernier. S'il est vrai que la mort n'a plus aucun pouvoir sur l'homme et sur le monde, il subsiste cependant encore beaucoup trop de signes de son antique domination. Si par la Pâque le Christ a extirpé la racine du mal, il a toutefois besoin d'hommes et de femmes, vous et moi, qui dans tous les temps et lieux l'aide à affirmer sa victoire avec les mêmes armes que lui, les armes de la justice et de la vérité, de la miséricorde, du pardon et de l'amour. Donc il a besoin de nous pour affirmer la victoire qu'il a déjà obtenue. Il a extirpé déjà la racine du mal, mais pour répandre ses fruits de la résurrection dans le monde. Alors en cette année du sacerdoce, nous pouvons prier d'une façon particulière pour les prêtres, pour les vocations de prêtres. Vous savez que les sacrements sont comme les portes à travers lesquelles nous est communiquée cette vie éternelle, cette vie qui nous vient du Christ ressuscité. Et comme le dit le curé d'Ars, sans le prêtre, la mort et la passion de notre Seigneur ne serviraient de rien. C'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. À quoi servirait une maison remplie d'or si vous n'aviez personne pour ouvrir la porte? Le prêtre a la clé des trésors célestes, c'est lui qui ouvre la porte. Il est l'économe du bon Dieu, l'administrateur de ses biens. Alors, frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous donne des prêtres pour que nous puissions toujours bénéficier de tous les bienfaits de la résurrection du Seigneur. Amen.